Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La 11e édition du Festival du film francophone d'Angoulême s'est achevée hier soir. Un casting de rêve. Aux côtés de Stéphane Boudsocq, ce sera dans un instant. La rentrée littéraire, marquée cette année par un record de premiers romans, 94 sur 567, le préféré de Bernard Lehu, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, on le découvrira en compagnie de l'auteur dans quelques instants. 3 ans après le succès de son premier album, la chanteuse Jane est de retour pour Soldier, un nouveau disque, j'ai prononcé correctement.
Vous avez travaillé votre anglais cet été.
Merci. Vous m'aviez donné des consignes, qu'est-ce que vous voyez. Voilà, un nouveau disque qu'elle nous présentera au micro de Stephen Bellery que vous venez d'entendre. Et puis France 2 entame ce soir à 20h40 la diffusion de son feuilleton quotidien Un si grand soleil, tourné dans la région de Montpellier. La chaîne tient-elle son plus belle la vie? Eh bien réponse avec Isabelle Morini-Bosque dans un tout petit instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Et pour cette première émission de la rentrée, nous vous emmenons donc à Angoulême, où s'est achevé hier soir avec RTL le Festival du film francophone. Bonjour cher Stéphane Boudsocq.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver.
Bonjour Stéphane.
Toute l'équipe vous salue. Hello. Vous avez suivi Stéphane depuis lundi dernier cette 11e édition qui se termine sur un très gros succès populaire.
Ah ouais, le cap des 40 000 spectateurs a été dépassé. C'est la première fois, preuve qu'après un été pourri, on va le dire, côté fréquentation pour le ciné français, eh bien le public ne boude pas nos films, il demande juste, le public, de l'imagination, du boulot, au-delà des recettes toutes faites ou confortables. Ouais. La compétition et les avant-premières qu'on a vues ici en Charente redonnent vraiment confiance, croyez-moi. L'automne devrait être un excellent cru. Karine Viard, qui était la présidente du jury cette année, s'en réjouit.
Le cinéma renaît toujours de ses cendres, mais c'est vrai qu'on a beaucoup vu des comédies idiotes avec des espèces de recettes qui marchent plus. Il faut arrêter ça. Les acteurs, tout le monde adore cet acteur, tout le monde va y aller. Tu mets un acteur que tout le monde a envie de voir, plus une actrice que tout le monde a envie de voir, et puis ça fait un film que personne n'a envie de voir. Hein. Ça marche pas non plus, ça. Voilà, moi ça, je le regrette. Je trouve que les comédies, il y en a beaucoup qui sont bidons, qui sont nuls, qui font rire personne. Tu sors du truc, tu t'es à peine amusé en le regardant, et 2 minutes après, t'as l'impression qu'il s'est rien passé, que t'en as aucun souvenir, quoi. Moi, ça me désole.
La franchise, toujours, de Karine Viard, qui vient de terminer, figurez-vous, le tournage d'un drame, un vrai, hein. Une chanson douce, adaptée du best-seller prix Goncourt 2016 de Leïla Slimani. Oh, on va être très impatients. Un drame, évidemment, dans lequel elle jouera, écoutez, le rôle de la nounou tueuse d'enfants.
Je peux vous dire, je me suis éclatée. Hein. Vraiment, je suis le cochon qui s'est bien vautré dans la boue. Ah, je me suis roulée dedans. Ah, j'ai tellement aimé faire ça. C'est un rôle terrible. C'est un personnage tellement sombre. Pourquoi moi, qui suis quand même globalement très joyeuse, très solaire, qui a un grand appétit de vie, pourquoi j'ai tellement aimé jouer ça? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi que je rencontre à travers ce personnage? Je pense. Je ne sais pas où ça se situe, mais je peux vous dire que c'était une expérience de travail et de vie absolument démente. J'ai eu envie d'être actrice pour faire ça, pour faire ce film-là. C'est drôle, hein?
Pas sûr que le film avec aussi Leïla Bekti le soit, lui. Drôle, sortie prévue, notez bien, on a un petit peu de temps, hein, c'est 2019.
Oui. Alors, avant cela Stéphane, on va vite découvrir sur nos écrans les films qui ont marqué ce festival 2018.
Oui. À commencer par I Feel Good du tandem Benoît Delépine, Gustave Kervern, ce sont les créateurs de Groland et ils ont réuni Jean Dujardin et Yolande Moreau dans un centre Emmaüs. Oui. Un frère abruti, escroc, une sœur très intègre. Résultat décapant, absurde, drôle, ça a bien divisé mais ça a bien agité aussi ici à Angoulême. Jean Dujardin, une nouvelle fois dans la peau d'un personnage qui vaut le détour.
C'est un monde de cabossés, donc il fallait bien aussi me cabosser. Donc il a fallu effectivement un moment mettre des fringues improbables, se laisser grossir. Ça, j'ai pas eu trop de mal. Prendre un peu le soleil parce que j'imaginais que le mec vivait dehors. Et une non-coupe de cheveux parce que vu que mes golfs sont assez identitaires, finalement, en cassant ça, on avait un autre personnage. Le fait est que moi, c'est tout ce que j'attends dans la comédie, sinon je vais ailleurs. Je vais aller raconter d'autres histoires et pas forcément qu'en comédie. La comédie, elle n'est pas que tout le temps dans les mêmes ressorts et toujours dans les mêmes problèmes de quadra ou de quinca. C'est pas mal aussi d'aller s'intéresser à autre chose. Moi, je suis content qu'ils existent, Benegus.
I Feel Good sera sur nos écrans le 26 septembre. Alors vous l'avez entendu, Jean Dujardin lui aussi abordait ce thème, hein, de la fin d'un cycle pour le cinéma français, ce besoin de renouveau. Preuve que s'inquiètent plutôt nos stars. Même discours chez José Garcia qui va beaucoup vous émouvoir mais aussi vous faire rire. Dans Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, c'est le film qui a fait l'ouverture du festival.
Quelquefois, il y a des séries qui me percutent complètement, quoi. Donc la qualité, l'écriture et la manière de tourner, c'est très impressionnant. Et le cinéma est un peu en retard par rapport à ça. Et si vous voulez, le confort et la zone de confort dans laquelle le cinéma était jusqu'à maintenant, je crois qu'il va falloir redéfinir tout ça. Maintenant, ça va être un peu la guerre entre les séries, rester chez soi ou sortir. Donc il faut qu'on se bouge, parce que même dans la qualité d'écriture du scénario, même dans la proposition, dans la narration, il va falloir être très très fort.
Ça tombe bien, Lola et ses frères est extrêmement costaud, ouais. À découvrir le 28 novembre prochain.
C'est intéressant ce qu'il vous a dit, hein. Il est conscient de ce qui se passe.
Je peux vous dire tous.
Alors parmi les comédiennes que vous avez croisées durant cette semaine charentaise, Stéphane, et bien, il y a aussi Alexandra Lamy.
Oui, qui est venu présenter Le Poulain, comédie dramatique sexy et cruelle sur une campagne présidentielle, figurez-vous. Elle y incarne une directrice de com' ambitieuse, prête à tout pour le pouvoir. Rôle complexe, registre qui lui va à merveille, Alexandra Lamy. Heureuse encore du carton du film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, mais pas rassurée pour autant.
Rien n'est jamais acquis, et tant mieux d'ailleurs. C'est comme pour l'amour, comme ça, ça nous permet toujours d'avancer, de continuer à séduire, de continuer à travailler. Quand j'entends quelqu'un qui dit « Oh, bah, prends Alexandra Lamy, tu vas voir, elle est super, je l'ai vue dans son dernier film, elle est géniale. » Alors ça, ça m'angoisse, parce que je me dis « Oui, non, mais peut-être que dans le dernier film, j'étais bien, mais peut-être que là, je serais peut-être un peu moins bien. » Enfin, d'un coup, ça vous met une pression. Même j'ai le trac, on s'en rend pas compte, comme ça, je le cache. C'est pour ça que je crois que je ris beaucoup, que j'essaie toujours d'avoir de l'humour. Bizarrement, je crois que j'ai de plus en plus peur.
Le Poulain avec Alexandra Lamy en salle le 19 septembre. Trois semaines plus tard, le 10 octobre, vous découvrirez Voyez comme on danse de et avec Michel Blanc qui, 16 ans après, reprend les personnages de Embrasser qui vous voudrez pour une farce bourgeoise sur l'argent, l'identité. Karine Viard, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Jean-Paul Rouve, Carole Bouquet, entre autres, à l'affiche. Le ton, l'écriture de Michel Blanc sont intactes 40 ans après l'épopée du Splendide.
Nous, on est venus du café-théâtre et c'est là où les metteurs en scène venaient chercher... Les acteurs, Tavernier venu nous voir, enfin bon, je pourrais les citer. Ensuite, il y a eu la période Canal, Chabat, tout ça, qui sont venus de la télévision. Maintenant, c'est le stand-up. Donc, si vous voulez, je regarde ça en me disant, je ne sais pas le faire. Je regardais l'autre jour le spectacle d'Ahmed Silla, et il est bluffant. Ça vient comme ça, il se passe des trucs dans la salle, il les chope, il les développe. Et en plus, quand il joue, parce que je l'ai vu dans un film récemment, c'est un très bon acteur.
Alors figurez-vous qu'Ahmed Silla, lui aussi, est passé par Angoulême pour présenter le film Chacun pour tous. Je lui ai donc fait part de l'intérêt de Michel Blanc pour son boulot.
Dans mes spectacles, j'ai à cœur de, raconter une petite histoire et jouer beaucoup de personnages. Tout ça avec du stand-up. Mais je me suis évidemment inspiré de ces gens-là, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont apporté dans l'humour. Parce que c'est beau, c'est touchant en fait à chaque fois. À chaque fois, il y a une part de tendresse comme ça. Dans Les Bronzés, dans machin, donc ouais. Ah, ça me fait super plaisir, je vais l'appeler.
Ahmed Silla, aux côtés de Camélia Jordana ou encore Jean-Pierre Darroussin, le film s'appelle Chacun pour tous, ça raconte l'histoire vraie, figurez-vous, oui. D'une fausse équipe de déficients mentaux montée de toutes pièces pour participer aux Jeux Paralympiques. Ce sera à voir le 31 novembre, ça vaut le détour.
On peut imaginer à quel point ça me tente cette histoire-là. Alors, pour terminer, Stéphane, un mot du palmarès de ce 11e festival du film francophone d'Angoulême. Appelons-le comme il se nomme, puisqu'il a été décerné hier soir.
Oui, c'est le film Scheherazade de Jean-Bernard Marlin qui a reçu le Valois de Diamant, celui de la meilleure musique et celui des étudiants francophones. Moi, je suis un petit peu réservé, moins convaincu par cette histoire d'amour entre un petit caïd marseillais et une jeune prostituée. On en reparle vite parce que ça sort assez rapidement. Ça sort le 5 septembre, figurez-vous.
Merci beaucoup, Stéphane. L'affiche était belle ce matin et ce festival, une fois encore, a lancé la rentrée du cinéma français. Vous rentrez à Paris ?
TGV, 13h46, voiture 13, place 22, hein, je vous dis tout. On se voit mercredi.
N'oubliez pas de composter aussi.
Voilà. Non, on ne composte plus, mon bon monsieur. Quatre films du festival sortent en salle le 29.
Votre fan club sera présent. Alors, ce jingle annonce à demain, donc, enfin, et même à cet après-midi plutôt d'ailleurs. Ce jingle annonce, avec nos amis de Médiamétrie, il faut que je reprenne mes habitudes, nos audiences télévisées du week-end. Isabelle Morizibus, je suis bien content de vous retrouver.
Ben, moi aussi. Et surtout, s'en va-t-il le week-end prochain. Écoutez, l'été se termine comme il a commencé, avec de faibles audiences télé. Vendredi, les deux premiers diversions sur TF1 et Boule sur M6 rassemblent moins de 2 600 000 personnes. Et samedi, si Fort Boyard est en tête devant une rediffusion de Mongeville sur France 3, c'est avec respectivement 2 900 000 et 2 800 000 fidèles, donc moins de 3 millions de téléspectateurs.
J'ai craqué quand ils nous ont mis Bruno Guillon dans le tuyau avec les rats et tout. Moi, je trouvais ça trop bien.
Eh bien, écoutez, petite embellie hier soir, puisque 3 510 000 personnes étaient devant Agents très spéciaux, Code Uncle, donc le film sur TF1, devant Neuilly sa mère sur la 2.
On se retrouve dans quelques instants pour parler de notre soirée télévisée. Et Bernard Lehu est avec nous pour son coup de cœur de la rentrée. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
jamais de scène de ménage dans l'équipe de Laissez-vous tenter.
Jamais.
Bernard Lehu, bonjour.
Eh ben bonjour.
C'est une spécialité typiquement française.
Le camembert ? Ah non.
Alors, il y a le camembert, entre autres choses, oui, absolument. Il y a la rentrée littéraire, voyez-vous. Chaque année, à la même époque, une avalanche de nouveautés déferle dans les librairies.
Et alors, je sais, cher Yves, que chaque année, cette précision vous intéresse beaucoup.
Absolument.
Je rappelle donc le nombre de livres à paraître d'ici octobre, 567.
C'est n'importe quoi.
Alors, je ne me plaindrai jamais, je ne dirai jamais qu'on publie trop de livres. Voilà. Alors, c'est beaucoup, 567, certes, mais c'est un peu moins que l'an dernier, 581.
Ah bon. Alors, au-delà des chiffres, qu'est-ce qui caractérise cette rentrée littéraire 2018?
Alors, j'ai rarement, voire jamais connu une rentrée aussi ouverte et incertaine. Aucun livre ne s'impose comme une évidence, aucun auteur n'écrase la concurrence. C'est bien malin celui qui peut prédire les lauréats des Grands Prix de l'automne, à commencer par le Goncourt. Je ne m'y risque donc pas, très courageusement, mais ça rend cette rentrée en librairie, mais d'autant plus palpitante.
Bah oui, là, vous êtes futé parce que vous nous aguichez encore plus. Alors, d'où l'intérêt de nous guider par vos choix, vos coups de cœur dans les semaines à venir. On commence ce matin par un premier roman.
Mais oui, parce qu'il faut remonter à plus de 10 ans, figurez-vous, pour retrouver autant de premiers romans, 94, dans une rentrée littéraire. C'est là la grande tendance de cette rentrée. Et alors, notre préféré a pour titre La vraie vie. Il paraîtra mercredi aux éditions L'Iconoclaste et il est signé d'une jeune auteure belge, Adeline Dieudonné. Elle a 35 ans.
Que nous raconte exactement Adeline Dieudonné?
C'est le passage à l'âge adulte d'une petite fille terriblement attachante. Une espèce d'Alice, alors au pays non pas des merveilles, mais de Stephen King.
Oula.
On ne connaît pas son prénom, c'est elle qui raconte sa drôle de vie de famille entre un père, chasseur obsessionnel de gros gibier, tyran domestique, sa mère souffre-douleur, transparente comme une amibe, et son petit frère, fragile et silencieux. La manière dont Adeline Dieudonné fait entendre la voix de cette gabine était absolument remarquable.
Il y a certainement beaucoup de moi. Voilà, je me suis aussi beaucoup reconnectée à mon enfance, à mon adolescence pour l'écrire. Ses peurs, ce à quoi elle est confrontée, c'est-à-dire la découverte de la violence. Moi, je n'ai pas été maltraitée. Mais je pense que comme tout le monde, à un moment, on prend conscience que les gens qu'on aime peuvent mourir ou être blessés. Enfin, cette perte d'innocence-là, je me suis beaucoup reconnectée à ma propre enfance. Aussi sur la naissance de l'érotisme et des sensations charnelles. Oui, elle est moi. Peut-être un tout petit peu ma fille aussi. J'ai une fille qui a 10 ans. L'âge de l'héroïne au début du roman. Et donc, voilà, j'ai peut-être aussi un petit peu observé ses attitudes, ses réactions.
Alors, commencer à la manière d'un conte étrangement poétique, non dénué d'humour, La vraie vie, le récit d'Alice Dieudonné glisse doucement vers un roman de terreur où les hommes deviennent les redoutables prédateurs de la gente féminine.
J'aime avoir peur. J'aime avoir peur, donc forcément, à un moment, quand on se met de l'autre côté et qu'on prend la plume, on a envie de... Enfin, moi, j'ai envie de donner au lecteur ce que j'aime recevoir en tant que lectrice, donc oui, j'aime faire peur.
Bon, et vous serez servi, je vous le garantis, à la lecture de La vraie vie. Le dénouement particulier vous laissera groggy, mais aussi admiratif de l'énergie, du courage, de la soif de liberté de la merveilleuse héroïne créée par la talentueuse Adeline Dieudonné.
Alors,
j'ai terminé d'écrire le roman en pleurs, et j'étais surprise de ça, en pleurs de la quitter. Parce que c'est vrai que je m'étais attachée à cette gamine, et de me dire, ouais, à un moment, il faut mettre le mot fin, et voilà, et je savais que je la quittais, que je la retrouverais pas, et ça a été une vraie douleur, comme avec un personnage vivant.
Et donc, nous rappelons le titre de ce roman, La vraie vie, premier roman d'Adeline Dieudonné. Il paraît donc après-demain, mercredi, aux éditions de l'Iconoclaste, et c'est le premier des coups de cœur de Laissez-vous tenter dans cette rentrée littéraire.
Et pour finir, j'ai demandé à Adeline Dieudonné, dont on a appris ce matin qu'elle est d'ailleurs finaliste du prix FNAC, le premier prix littéraire de la rentrée, quel est son état d'esprit à 48 heures de la sortie de son livre?
J'en peux plus. C'est vraiment, c'est une fin de grossesse là. Je suis terriblement impatiente, je suis excitée.
L'impatience plus que le trac.
Ah oui, non, j'ai aucun, alors zéro trac, parce que pour moi le fait d'être publié, c'est déjà la victoire. Donc quoi qu'il arrive avec le bouquin, j'ai pas peur, mais je suis terriblement excitée. J'ai envie que les gens le lisent, j'ai envie d'avoir des retours de lecture et de voir voilà comment mon bébé va grandir maintenant sans moi.
très agréable, la fraîcheur, l'impatience de la débutante Adeline Dieudonné que vous nous avez fait découvrir. Et on peut retrouver l'intégralité de votre interview de l'auteur de La Vraie Vie sur le site rtl.fr. Puis on a un joli rendez-vous à l'antenne ce matin.
C'est tout à l'heure, à 11h, à la bonne heure, avec Stéphane Bern. C'est aussi la reprise pour Stéphane Bern. Il a choisi d'arriver justement en fanfare avec... Amélie Nothomb.
L'incontournable Amélie Nothomb.
C'est son 26e roman, un par an depuis 1992.
Voilà. Chez Stéphane Bern à la bonne heure, dès 11h sur l'antenne d'RTL. La musique à présent, avec Zanaka, écoulée à 650 000 exemplaires dans le monde. Jane est de retour, la chanteuse de Makeba vient de publier son deuxième album intitulé Soldier. Bonjour Stephen Bellery.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré Jane qui poursuit son exploration musicale.
Oui, telle une quête, un voyage, Jane s'affirme plus curieuse, plus voyageuse, plus aventureuse. 10 morceaux, à nouveau en anglais, 32 minutes, un disque resserré en forme de Rubik's Cube, une palette de couleurs et de senteurs qui s'imbriquent. Exemple avec On My Way. Jane, 26 ans aujourd'hui, l'a écrit sur la route entre les 200 concerts de sa précédente tournée mondiale.
Je crois que je me suis quasi jamais arrêtée. J'ai vraiment écrit pendant toute la durée de la tournée. C'est assez bizarre parce que c'est devenu tellement naturel et tellement vital que limite quand j'écris pas pendant un mois, je me sens pas bien. C'est tellement une façon de vivre, d'écrire un petit peu tous les jours ou de chercher des petites idées tous les jours que du coup quand je le fais plus, y a quelque chose qui me manque. Moi c'est vrai que ça a toujours été les voyages, ça a toujours été les trajets en fait, marcher, etc. Et du coup ouais, être en tournée, bouger sans arrêt, ça m'a encore plus inspirée. Ça s'est écrit assez facilement au final. Ça s'écrit vraiment dans les 2 ans et je suis hyper contente.
Du nouvel album de Jane, chanson sur l'ironie de la starification.
Avec ce nouvel album, Jane confirme son envie d'optimisme et d'universalité, Stephen.
Oui, de faire du bien, de faire danser aussi, tout en passant quelques messages. Elle réagit à l'attentat de la discothèque Pulse à Orlando, rend hommage à Monsieur Flash qui lui a appris la programmation musicale au Congo, ou chante simplement son besoin de rêver, le tout avec peu de mots, l'usage de la répétition et de boucles musicales qu'elle bidouille.
Ma musique est quand même très spontanée, disons que je garde souvent les premières idées. Donc j'essaie vraiment de garder au maximum ce truc un peu de l'enfance aussi, que j'ai pas envie de perdre, j'ai envie de continuer à pouvoir jouer. J'ai des images, des sons surtout, j'ai des souvenirs qui reviennent beaucoup, notamment des souvenirs, c'est assez drôle, de trajet, c'est-à-dire des trucs assez banals, quand on marche dans la rue, qu'on entend une musique aux fenêtres, ou quand on est dans un taxi, qu'on entend une radio locale, etc. C'est vrai que c'est à chaque fois quelque chose qui me marque beaucoup et dont je m'imprègne aussi beaucoup. La musique, c'est vraiment le seul endroit où je me sens complètement libre. C'est vraiment une bulle que je me suis créée au fil du temps et où il n'y a aucune règle non plus. Et c'est ça que j'aime. Cette idée de transe. Moi, j'aime bien la musique qui te met dans une sorte de boucle permanente et au fur et à mesure que la chanson passe, tu te dis « Ah, elle répète toujours les mêmes mots » puis à la fin de la chanson, tu te dis « Ah, il se passe un truc quand même dans ma tête. » Ça rentre et j'aime bien ça, oui. C'est vrai que j'aime bien les musiques de transe. Moi, quand j'écris des chansons, il faut que je bouge.
Agrandit son air de jeu, elle malaxe le reggae, se joue du hip-hop et pisse ses sonorités électro d'une pincée d'Orient ou sample le générique du dessin animé culte Inspecteur Gadget, dessin animé des années 80. Ça donne le morceau Inspector.
J'adore, c'est drôle. Alors sur son premier album, Jane s'était inspirée des rythmes de rumba congolaise. Avec Soldier, elle nous emmène cette fois au Proche-Orient, Stephen.
Oui, notamment à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, qui donne son nom à la plage 9 du disque.
À Abu Dhabi, je suis allée pour passer mon bac seulement. Et avant, j'avais vécu à Dubaï à partir de 9 ans. Et j'avais déjà un peu commencé à faire de la batterie. Donc, je me suis tout de suite intéressée aux percussions, à tout ce qu'on pouvait taper et qui faisait du bruit, en fait. C'était assez simple. Mais du coup, j'avais un cours avec un professeur palestinien à Dubaï qui m'a, pour la première fois, montré les rythmes ternaires, ce qu'il n'y avait pas du tout en France. Enfin, j'étais pas du tout habituée à jouer ça. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes sons. Et ce rythme ternaire, ce rythme un peu de tabla arabique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand j'écris, j'ai vraiment l'impression d'être dans un lieu particulier à chaque fois. Et là, j'avais vraiment envie de faire partie d'Abu Dhabi par la musique.
Passe la seconde avec brio. Soldier est un disque qui se laisse apprivoiser avec le temps au fil des écoutes. Fille d'expatriés à la jeunesse déroutante, selon ses mots, Jane range aussi au placard sa robe à col Claudine au profit d'une combinaison bleue.
En bleu de travail. J'aime bien l'idée de créer un nouveau personnage pour chaque album. Donc il y a quelque chose de plus assumé aussi, de plus bagarreur, pour être cette femme qui met un peu plus les mains dans le cambouis.
Et cette femme qui est une ouvrière, cette femme qui bricole, cette femme artisan.
Oui, complètement. L'artisanat, c'est très très important pour moi. C'est comme ça que je fais ma musique, c'est très artisanal. C'est chez moi avec mes petites machines. Et voilà, encore une fois, un côté assez, on va dire, kitschouille, qui me plaît beaucoup parce que ça me représente et ça crée mon son. And he's fighting and fighting for love
now. He's fighting, fighting for some more. Le nouvel album de Jane vient tout juste de sortir. Il s'intitule Soldier. Jane partira en tournée l'an prochain, toujours seule en scène, mais avec une télécommande sur son bras qui fonctionne en Wi-Fi et qui commande son ordinateur et toutes ses boucles.
Bon, écoutez, on a passé un super moment. Télévision, dans un instant, la télévision, avec une vraie question. Est-ce que France 2 a trouvé son feuilleton quotidien? On va en parler avec Isabelle Morini-Bosque. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h23, Mademoiselle Morini-Bosque, au rapport.
Nous allons parler télévision, avec plaisir.
Évidemment. Vous arrivez en même temps que le feuilleton de France 2, Un si grand soleil.
Oui.
Et c'est un sacré pari pour France Télévisions.
Oui, et 1 et 2 et 3 feuilletons français désormais. C'est un pari de 35 millions d'euros. L'histoire commence par un polar. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Claire, Mélanie Maudran, ravissante comme il se doit, revient avec son fils Théo à Montpellier qu'elle a quitté 17 ans plus tôt. Pas de bol, son seul ami est retrouvé assassiné. Et bien sûr, elle est soupçonnée.
C'est trop un coup de fil, c'est la loi, non?
La loi me laisse 3 heures avant de vous laisser téléphoner. On est dans les temps. Donc vous savez pas pourquoi Garcia voulait vous voir?
Je vous l'ai dit, je suis partie de Montpellier il y a 17 ans, j'ai perdu tout contact avec tout le monde.
Sauf avec François Garcia, apparemment.
Mais si, avec lui aussi. Et quand j'ai décidé de rentrer en France, c'était mon meilleur ami. Je l'ai retrouvé sur Facebook pour le prévenir. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait des révélations à me faire dès mon arrivée.
Et vous avez pas été plus curieuse que ça?
Oui, bien la suite sur France 2. La première groupie, c'est la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Honnêtement, je ne l'avais jamais vue aussi enthousiaste. Elle est au micro de Laurent Marsic.
Moi, ce que j'espère au fond de mon cœur, c'est que pour beaucoup de Français, ce feuilleton, ça va être un petit plaisir quotidien de plus. Il y a des gens qui en ont bien besoin d'avoir des plaisirs quotidiens. Tous, on en a besoin, en fait. Et parce qu'il sera fait avec cœur, parce qu'il sera intéressant, parce qu'on a mis tout notre savoir-faire en matière de qualité de réalisation, les gens vont avoir envie de le regarder tous les jours. Ils vont être contents de retrouver les personnages. Voilà, et que ça va être un petit rayon de soleil, un si grand soleil pour tout le monde.
Mazette, mais c'est Loving Ernotte.
Oui, absolument. Concrètement, c'est 235 épisodes commandés, 100 000 euros pièce, une intrigue classique, solide, ni zazou, ni zinzin. La stratégie, c'est le producteur Théo de Mattei qui l'explique.
L'objectif, c'est poursuivre finalement la connivence que France 2 entretient déjà avec le public et potentiellement même élargir à des publics qui fréquentent un peu moins la chaîne aujourd'hui. Les spectateurs les plus jeunes trouveront des ingrédients qui font qu'ils auront envie de venir chaque jour. On parle de projets qui se chiffrent en dizaines de millions puisqu'il s'agit de livrer des centaines d'épisodes. Ce sont des séries qui n'existent que parce qu'elles existent en très gros volume. Et donc, évidemment, il faut investir beaucoup d'argent. Et en même temps, ça fait travailler énormément de gens. Ici, on tourne à 200-250 personnes. L'objectif, c'est de durer chez les Britanniques. Il y a une série là depuis plus de 60 ans. J'adorerais qu'Un si grand soleil soit encore à l'antenne dans 60 ans.
Oui, je leur souhaite. Il s'agit en fait de Coronation Street, un feuilleton commencé en 1960, donc bientôt 60 ans.
Mais dites-moi, il y a de la place pour 3 feuilletons?
Moi, je pense que oui. Écoutez, quand Plus belle la vie a commencé, on a dit ça ne durera pas. Résultat, toujours plus de 4 millions de téléspectateurs à 20h 20h20, hein, à partir de ce soir, harmonisation oblige. Demain nous appartient, on a dit, ça ne prendra pas, beaucoup le souhaitaient d'ailleurs. Résultat, 3 400 000 fans à 19h20 sur TF1. Moi, tout l'été. Il y a 900 000 personnes regardant les deux, d'ailleurs. Mais je laisse à la patronne de la fiction de jour de la 2, Sophie Gigon, le soin de comparer.
DNA a démarré relativement vite, mais c'était autour de personnalités. Les gens sont venus beaucoup voir Ingrid Chauvin, Laurie, Alexandre Brasseur. C'est pas la façon dont on a abordé le feuilleton. Plus belle la vie, c'est la 15e année, donc c'est un vrai, vrai succès. On est très en retard hein, par rapport à un tas de pays en Europe. Il y a la place vraiment pour un troisième feuilleton. C'est le pari qu'on fait, nous. C'est un travail hyper collectif. Bah, ce travail collectif, il appartient au public. Et c'est pour eux qu'on le fait.
Oui, DNA, c'est Demain nous appartient. Alors, il y a tout de même des noms connus hein, dans Un si grand soleil, comme Christelle Labaud, ex-section de recherche, je l'adore. Et retenez le nom de Gary Guéner, alias Théo, un petit jeune, on en reparlera cette semaine.
Va falloir qu'il s'habitue. Oui. Gary Guéner.
Gary Guéner. Va falloir qu'il s'habitue à la lumière, soleil oblige. Le soleil, c'est d'ailleurs le point commun, Plus belle la vie, tourné à Marseille. Demain nous appartient, localisé à Sète, et Un si grand soleil, donc situé à Montpellier, ville jugée plus moderne. Par France 2. Ce sont des intrigues à forte teneur en vitamine D, des séries écran total, si j'ose dire. On verra si les journaux télévisés souffrent de la concurrence. C'est pas impossible. Une concurrence qui ne se joue d'ailleurs pas seulement entre la 1, la 2 et la 3, côté fiction, puisque à partir de 20h25, il faut compter avec Scène de ménage, 4 millions de téléspectateurs de fidèles, qui accueillent à partir de ce soir sur M6 Leslie et Léo, alias Claire Schust et Vinnie Dargaud, deux petits jeunes qui remplacent quelque part Cédric et Mario.
C'est moi qui commence ? Alors, moi je vais incarner Léo, un jeune fils à papa, graphiste de formation, comme Leslie, sympathique, sportif, un peu matheux, un peu tête à claque parce que pas bien au fait de la dure réalité de la vie.
Moi j'interprète Leslie, 24 ans, qui vient d'un milieu beaucoup plus populaire que Léo. Elle a été élevée par sa mère célibataire, elle est assez volcanique et elle a beaucoup de mauvaise foi aussi. Mais elle est gentille.
On n'a pas vocation à remplacer qui que ce soit.
On n'est vraiment pas dans le même registre, à part le côté jeune, puisque c'est
voilà.
Un plus jeune couple.
Mais on est ça, c'est la toute jeune trentaine. Nous on est vraiment les tout jeunes vingtenaires qui aménageons ensemble les prémices du couple, voilà.
Oui, c'est des vingtenaires, donc. Ils sont au micro de Hugo Amudou, Scène de ménage. C'est un format court qui en dit toujours long sur les couples depuis bientôt 10 ans. Ça aussi, on avait dit que ça ne durerait pas. Moi, je suis passionnée par les feuilletons. C'est vrai qu'on a moitié moins que dans le reste de l'Europe et ils marchent partout.
Bon, écoutez, moi, je suis passionnée quand vous l'êtes vous aussi, donc tout va bien.
Il faut juste des fois muscler en... les dialogues, mais bon.
Très bien. On a compris le message. Dans quelques instants, on dit au revoir et surtout, on accueille notre camarade Julien Courbet pour sa première émission de la rentrée. À tout de suite. Il est 9h30, merci d'avoir été fidèle au rendez-vous avec toute l'équipe de la matinale. On retrouve maintenant Julien Courbet. Bonjour cher Julien.
Bonjour mon Yves, comment allez-vous ?
Bon, formidablement, je vois vous êtes d'une élégance exceptionnelle.
Toujours pour les premières et après je m'habille comme un pouilleux le reste de l'année.
Non.
Et je remets la cravate le dernier jour puisque le premier et le dernier jour, c'est le jour où la direction vient dans le studio.
Ah oui, voilà, il y a raison. Voilà.
Bon, tout va bien, dites-moi, en nouvelle télé, moi j'ai été quand même un peu chagriné d'apprendre que peut-être, faites entrer l'accusé, allez s'arrêter.
Ah bon ?
Ben, je sais pas, non, elle peut nous le confirmer.
J'ai pas suivi ça, mais on va demander à Isabelle Morinibus si elle avait entendu ça.
C'est bizarre, mais il paraît que non. Non, moi j'ai décroché en vacances, hein, mais d'accord. J'ai lu que c'était faux, que la chaîne démentait. Bah,
si jamais donc, c'est vrai, je voudrais rendre hommage quand même à celui qui avait lancé l'émission, hein, Christophe Ondelat,
bien sûr.
Dont on se rappelle très certainement qu'il avait un jour posé cette question dans l'émission. C'est un document qui est tout à fait vrai.
À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère.
Voilà, donc c'est vrai qu'on l'envisage rarement. J'ai revu cette image et je me suis dit, qui ouvre le frigo en se disant, mais non, d'un chien ! Qui a mis maman à côté de beurre ? On ne s'impose pas la question.
Je l'ai dit, je l'ai réécouté. Vous pouvez me la remettre encore une fois,
elle est vraie,
tellement
c'est, ça. C'est une histoire, vous écoutez bien.
À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo... soit votre mère.
C'est une petite inflexion avant la fin de la phrase, il y a une petite inflexion, c'est merveilleux.
Il faut la poser quand même.
Mais oui, il faut la poser.
Ah, c'est du journalisme. Allez, merci à tous, on se retrouve donc demain, ça démarre fort, ça va être une belle année.
On est très heureux de vous retrouver, faites-nous une belle émission comme d'habitude.
Vous écoutez RTL.